Question d'assaut.
Le podcast par et pour les assauts.
La faible densité de population place les territoires ruraux dans ce que le géographe Mathieu Nouchet nomme le blanc des cartes. En se concentrant sur les flux et les pôles d'activité les plus importants, la représentation, les représentations cartographiques et institutionnelles invisibilisent par construction la ruralité. Ce phénomène renforce un double imaginaire. Premièrement, celui des territoires vides, où il n'y aurait rien, c'est-à-dire rien à faire, pas de service, pas d'activité, pas de vie collective. Le fameux « c'est mort ici ». Et deuxièmement, celui des territoires forcément dépendants des villes, là où se concentre l'activité économique. Donc deux imaginaires qui ne correspondent pas à ce que l'on pourrait observer sur le terrain. Le monde rural est loin d'être mort, l'activité y est dense. Si problème il y a, c'est plutôt que ce dynamisme repose sur la surmobilisation, pour ne pas dire l'épuisement, de quelques-uns et quelques-unes qui s'engagent de manière plus ou moins formelle sur des territoires, qui peuvent, de surcroît, s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres. Et que les dispositifs d'aide pensés au niveau régional et national sont bien trop rares et souvent peu adaptés pour répondre aux besoins de ces territoires. Dans ce contexte extrêmement contraint, comment se structurent les projets associatifs et les gouvernances? Que mettre en place pour prendre soin des collectifs et des individus mobilisés? Et comment identifier les rapports de domination spécifiques qui traversent le secteur associatif rural? Et enfin, que faire pour y répondre? C'est avec ces questions épineuses que nous vous proposons d'ouvrir ce 30e épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts. Pour aborder cette thématique, nous sommes à la boutique des idées de Pontarion, en Creuse, à l'initiative de Marie et Elsa, que nous avons rencontrées lors de l'enregistrement du précédent épisode, donc le premier de la saison, dans le cadre d'une formation sur les oppressions dans les gouvernances associatives. Bonjour Marie.
Bonjour.
Bonjour Elsa.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans le cadre de l'atelier que vous avez monté pour partager les réalités, les vécus d'organisations et de militantes qui animent et vivent dans des territoires ruraux. Pour animer ce podcast, j'ai d'ailleurs moi-même le plaisir d'accompagner Yaël. Bonjour Yaël.
Salut Ludo.
Et enfin, comme vous savez, cet épisode de Questions d'assaut réalisé par Guillaume Desjardins de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à l'écoute de Questions d'assaut, mais aussi vous abonner à Questions d'assaut sur votre plateforme de podcast préférée, que ça soit Apple Music, Spotify, Deezer, Peertube. On a évidemment besoin de votre soutien sur les plateformes. Pensez, si vous aimez le podcast, à y mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à nous aider un peu face aux algos. Vous pouvez enfin toujours évidemment écouter ce podcast directement sur notre site web www.questions-assaut.com. Nous sommes très heureux et très heureuses d'être avec vous pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut. Installez-vous confortablement, c'est parti. Et nous retrouvons Yaël pour l'édito.
Merci Ludo. Décidément, en cette quatrième saison, on bouscule toutes nos habitudes avec Questions d'assaut. Dans le précédent épisode, on n'avait pas reçu une association, mais on s'était infiltré. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Non, c'est pas un bon terme. On avait participé, un peu en douce, à un atelier, une formation d'ailleurs. On était arrivé en plein milieu, qui était organisé sur les oppressions dans le milieu associatif, dans les gouvernances d'ailleurs associatives. Tu l'as dit Ludo, et on a testé un format collectif qui nous a semblé plutôt bon, mais on attend quand même vos retours. Mais voyez, avant même d'avoir les retours, on reproduit ce modèle collectif, puisqu'on est aujourd'hui encore dans un cadre d'atelier, et donc avec pas uniquement une seule association comme d'habitude, mais d'ailleurs, non, on va pas parler en structure aujourd'hui, donc c'est encore différent par rapport à la dernière fois, puisque là, on a plutôt des personnes individuelles qui vont raconter leur parcours et qui vont partir de leur vécu, justement pour essayer de tisser ou en tout cas d'interroger et d'interpeller cette question des spécificités du monde rural ou de qu'est-ce que la ruralité fait, comme tu l'as dit Ludo en intro, en fait au vécu associatif. Peut-être qu'il faut plutôt le traduire comme ça. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant parce que l'atelier que vous avez proposé s'appelle « Et comment ça va vous ?» Donc là, on est vraiment au niveau des individus, plus que des structures, même si, bien sûr, il n'y a pas de structure sans individus. Et peut-être pour préciser, là, donc tu l'as dit, Ludo, on est dans la Creuse, à la boutique des idées, mais c'est le premier temps d'une réflexion croisée avec l'Occitanie. Alors, il faudra peut-être questionner cette question des échelles, puisque je ne suis pas très forte en géographie, mais il me semble que ce n'est pas les mêmes échelles. On reviendra dessus, puisqu'il y a un département et une région. Et donc, peut-être, on va essayer en tout cas de là, donc on est dans la Creuse. Peut-être que, si ça se passe bien, la prochaine fois, nous ferons aussi l'exercice en Occitanie pour pouvoir croiser les formes. En tout cas, on attend vos retours, puisqu'on tâtonne sur la forme. Donc, au cours de l'épisode, vous entendrez Elsa et Marie qui ont monté ces échanges, mais aussi nos trois participantes qui sont autour de la table et qui participent à l'atelier. Il semblerait que l'environnement soit un peu bruyant, donc on s'excuse par avance. Peut-être que vous entendrez des bruits de chips, mais on les a cachés, ou des bruits de câbles, mais on va quand même essayer d'y faire attention. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, on voulait peut-être au moins vous entendre, Marie et Elsa, pour revenir tout simplement sur pourquoi cet atelier et comment vous avez eu cette idée.
Donc, on s'est rencontrés avec Marie pendant une formation qui s'appelait formation même laboratoire sur les questions d'oppression systémique organisée par Brûlante. Et on s'est rendu compte de manière assez spontanée avec Marie qu'on rencontrait sur les territoires sur lesquels on travaillait et sur lesquels on vivait des dynamiques qui étaient assez similaires sur la façon dont le monde associatif pouvait évoluer. On est parti de ce constat-là. Et on s'est dit que les deux territoires sur lesquels on vivait pouvaient être eux aussi de super laboratoires pour essayer de faire un diagnostic et pour vraiment comprendre ces mécanismes. Et donc, effectivement, il y a deux échelles différentes. Marie, je te laisserai parler peut-être de ton rapport à la Creuse. Et pour ce qui est de l'Occitanie, on va traiter plutôt de l'Ouest-Occitanie, principalement de l'Ariège, parce que c'est là qu'on a des réseaux pour l'instant, mais aussi du Gers et de l'Aveyron et du Tarn. L'idée, c'est d'avoir un spectre assez large pour pouvoir étudier justement le plus de territoires possible et voir ce qui se répète sur ces territoires-là. Et ensuite, de pouvoir construire des outils et des parcours d'accompagnement du monde associatif. L'idée étant que, on va le voir aussi tout au long du podcast, mais qu'on le sait, le secteur associatif est en souffrance. Et l'idée, c'est du coup d'essayer d'aller un peu à la source de ce qui pourrait scléroser les assos et de se libérer un peu de ces névroses-là pour essayer d'avoir une action un peu plus impactante et en accord avec les besoins des territoires. Marie, je te laisse la parole.
Il s'est avéré qu'on s'est retrouvés au même endroit, effectivement, dans la formation, mais aussi en tant que salarié ou ayant eu des expériences salariées et associatives, où on avait rencontré les mêmes problématiques ou les mêmes enjeux, et en discutant notamment avec Questions d'Assaut, on a fait un lien qui paraissait évident au travers de la ruralité de nos territoires. Il faut dire aussi qu'on porte deux structures, chacune, plutôt sur l'idée de former, enfin, sur de former, et l'idée de former davantage des personnes ou des orgas, des collectifs, des assos sur les questions intersectionnelles, du coup d'approche genrée, d'approche de discrimination, de rapport de domination et de pouvoir, et du coup le croisement de nos expériences, de nos appétences et de nos envies nous ont amenés à se dire qu'ensemble, sur nos territoires respectifs, on pouvait apporter ces accompagnements-là.
Merci beaucoup pour le rappel du cadre et pour cette petite présentation. Et est-ce que vous pouvez peut-être revenir à la fois sur comment vous avez conçu ce temps d'échange et cet atelier, et peut-être les difficultés que vous avez eues ou pas?
On a pensé les deux ateliers différemment selon les endroits où on était, en prenant deux axes différents. Ici, en Creuse, on a plutôt choisi une approche apéro, proximité d'engagement et plutôt centrale par rapport au territoire de la Creuse, alors que plutôt sur la partie Ouest-Occitanie, on est avec davantage de professionnels ou de secteurs professionnels. Non pas pour éviter d'avoir des constats communs, mais justement pour complémentariser les approches, pour aussi ensuite se dire qu'on a un diagnostic assez large pour proposer des accompagnements spécifiques en fonction des problématiques, si ces gens sont salariés, si ces personnes sont plutôt dans de l'autogestion, si c'est plutôt de la structure militante ou de la structure plus institutionnelle.
Et pour compléter, on est consciente que les sujets qu'on aborde peuvent, enfin la question des oppressions systémiques, on est aussi en train de parler de violence et donc potentiellement de dynamiques qui sont difficiles pour les personnes qui vont en parler. Et donc ces ateliers-là, ils ont, enfin la construction de ces ateliers, elle a été pensée de manière, enfin elle a été de fait influencée par ce fait-là et aussi par le fait que un des caractères de la ruralité, c'est la difficulté à s'anonymiser et du coup, une forte propension à s'exposer justement au regard des personnes autour desquelles on évolue. Et donc, on a aussi dû prendre des précautions par rapport à ça et il y a vraiment eu c'est un premier frein, on va dire, à ce diagnostic, c'est qu'on aimerait que ce soit quelque chose de très large qui balaye le nombre le plus important possible de structures et de personnes. Et en même temps, on sait aussi qu'il y a des personnes et des structures qui peuvent pas forcément se retrouver aux mêmes endroits ou en tout cas que ça pourrait créer des difficultés ensuite qu'on n'est pas encore aujourd'hui à même de gérer. Voilà, donc beaucoup de précautions dans la façon d'envisager les ateliers.
Merci beaucoup. Et du coup, ça m'amène à une troisième question. Donc, vous voyez, pour les auditeurices les plus fidèles, que nous n'avons pas fait de carte d'identité habituelle, mais quand même, on ne perd pas le fil pour poser les cadres. Et donc, la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est du coup, quid des sous ? Est-ce que cet atelier est financé, pas financé ?
Eh bien non, nous n'avons pas de financement encore. Nous sommes partis du principe que nous étions à la création de quelque chose, d'une envie, d'un élan. Ça nous arrive des fois de penser les choses comme ça. En tout cas, on a envie de pouvoir avoir un diagnostic, en tout cas un premier regard sur le sujet et l'envie. En tout cas, les premiers retours qu'on a, c'est une envie de traiter ces sujets pour ensuite aller chercher des financements nous permettant de ne pas travailler gratuitement.
Merci beaucoup pour ce premier temps. Peut-être Ludo, je te passe la parole pour lancer la suite.
Ok, alors on va démarrer tranquille un peu pour qu'on puisse un peu voir les enjeux pour chacun et chacune, enfin pour chacune en l'occurrence, avec peut-être un petit tour de table, si vous le sentez, sur pourquoi en particulier vous êtes venu participer à cet atelier, en quoi il a pu résonner avec vos problématiques et qu'est-ce qui a fait que ce soir vous êtes là.
Donc je redis, je m'appelle René, j'avais envie juste de situer ma parole et je trouvais que c'était intéressant justement pour ma part de sortir de l'anonymat et d'avoir une parole située. Donc je suis une personne blanche et je suis travailleuse indépendante, je suis artiste-auteur et je pense que ça a un impact aussi sur mon engagement associatif, le fait d'être une personne qui travaille à son compte. Donc je suis venue ici ce soir parce que j'avais quelques mots-clés en tête. Je suis venue d'abord à l'invitation de Marie. J'avoue que c'était un peu flou pour moi la proposition, mais déjà, sachant que ça émanait de Marie, c'était très probable que ça m'intéresse. Et je suis venue parce que j'avais l'intuition d'un possible moment de mise en lien. Et c'est quelque chose, au-delà de l'aspect associatif, c'est très important pour moi des moments où je peux venir partager sur des sujets divers et variés, et celui de l'engagement associatif en est un. Et avec le mot clé à coller, ruralité, ça me parlait beaucoup parce que moi, je suis installée en Creuse depuis bientôt, ça fait un peu plus de 3 ans et demi. Je suis devenue propriétaire, donc c'était un engagement avec ce territoire un peu intuitif au départ, après 16 ans de vie dans une grosse métropole qui est celle de Nantes. Et je me suis posé beaucoup la question de ma classe sociale à travers cette question des néo-ruraux, puisque j'apparais comme ça ici sur ce territoire aux yeux de beaucoup de personnes, notamment de mon voisinage très proche. Et je me suis souvenu que j'étais née en Picardie et que j'avais grandi dans un village de 1000 habitants. Donc en fait, j'interroge toutes les thématiques, les questions qu'on se pose ce soir depuis tout cet environnement-là affectif et puis dans ce parcours où j'ai fait des études supérieures aussi et j'ai eu accès à une et des grandes villes. J'ai vécu à Nantes 16 ans, mais j'ai vécu dans plein de villes en France. Donc voilà, ça marque mon parcours quand même de manière décisive.
Merci beaucoup, René.
Moi, je redis aussi, je m'appelle Marine. Je suis une personne blanche qui a eu accès aux études supérieures également. J'habite en Creuse depuis 5 ans. Et moi aussi, j'étais enthousiaste que Marie me propose de participer à cet atelier, parce qu'en général, quand Marie me propose des choses, ça m'intéresse. Et puis aussi parce que ça, cette thématique d'atelier a fait résonner chez moi quelque chose qui m'intrigue sans que j'y ai encore vraiment répondu, qui est que je suis une personne qui adore faire groupe, travailler en équipe, faire ensemble. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'anime dans tous les différents segments de ma vie. Et pour autant, j'ai fait le choix de travailler en indépendante, de manière un petit peu résignée. Et du coup, toute mon activité de cœur, qui ne dépend pas de l'argent, donc mon activité militante, elle est bénévole dans des collectifs, parce que c'est aussi un choix de me rapprocher de structures qui sont plutôt des collectifs que des assos. Mais on pourra en reparler.
Merci beaucoup, Marine.
Moi, c'est Marlène. Je suis venue également à l'invitation de Marie et aussi assez enthousiaste de se dire qu'on allait un peu brasser ces sujets. Alors, c'était pareil, les contours étaient aussi... on m'a dit quelques mots-clés et je suis venue asso, ruralité, être ensemble, discuter, décortiquer. Voilà. Et pour me situer également, je suis également... je suis la figure du retour, moi. J'ai grandi en Creuse et je suis partie très longtemps et je suis revenue. Enfin, je le dis en blaguant parce que on se situe, mais on se met aussi des étiquettes parce que bien sûr tout est plus complexe. Mais en tout cas, je suis un peu dans cette dans le retour et je suis et bénévole et salariée dans le monde associatif. Voilà.
Merci beaucoup.
Et d'ailleurs, là, justement, je rebondis sur vos présentations parce que tu disais, justement, Marlène, que tu étais, on va dire, de celle qui était partie et qui est revenue. Mais en fait, René, c'est la même chose. Enfin, vous êtes plusieurs à avoir ce profil-là.
Rétro-rural. C'est rétro-rural, le terme.
Alors, est-ce que tu peux nous détailler la différence entre néo et rétro ?
Eh bien, rétro, c'est tu en viens... Tu fais autre chose ailleurs. Souvent, c'est soit du voyage ou de la ville, donc quelque chose de plutôt privilégiant. Et après, tu reviens, donc rétro. Voilà, il y a un terme.
Vas-y, René.
J'avais envie de rebondir sur Marlène. Tu te dis, je reviens. Pour moi, c'est un peu différent parce que j'ai grandi en Picardie. Maintenant, je m'intègre. Enfin, j'essaie de me créer une vie sur la Creuse. Mais je vois bien des gens autour de moi qui ont grandi et qui ont été à l'école et qui connaissent machin. Elles se connaissent tous. Et que moi, je fais pas partie de ces cercles, en fait. Et que j'ai aussi voulu quitter la Picardie pour sortir de ces cercles dans lesquels je me sentais enfermée. Et pour ma part, il n'y a pas eu de retour possible dans les cercles qu'ont été mes cercles, notamment de collège et de lycée, de socialisation. À partir du moment où je suis partie pour faire mes études, j'ai perdu tous mes liens avec de cœur avec la Picardie. Ce qui n'est pas le cas forcément de mes frères et sœurs qui ont conservé par exemple, des amitiés. Donc, il y a des liens familiaux qui sont restés, mais je trouve que ça change quand même la donne, parce que finalement, toi, t'as une connaissance du territoire et on peut potentiellement te reconnaître. Moi, j'arrive ici, personne ne me connaît. Par contre, bon, ma particularité, c'est que j'arrive, j'ai des frères qui se sont installés sur le territoire il y a 10 ans, il y a 15 ans, donc je suis sœur d'eux. C'est encore une autre particularité.
C'est bon, parce qu'il y a donc ceux qui reviennent, il y a ceux qui arrivent, et je sais pas si vous connaissez le bouquin de... Benoît Coquart, je crois, ceux qui restent. Alors, il n'y a pas de ceux qui restent ici aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, une question qui m'est venue comme ça, est-ce que vous pensez que, il y a des éléments de réponse là qui me faisaient penser à ça, est-ce que vous pensez que du coup, votre engagement associatif, il est aussi du fait que vous ne faites pas de partie de ceux qui restent, donc vous n'aviez pas cette socialisation? Il me semble que dans son bouquin, lui, il dit que ceux qui restent, justement, évidemment, se connaissent entre eux, etc. Et au contraire, sortent de la sphère publique. En fait, ils se retrouvent beaucoup entre potes, à la maison, ces nouveaux lieux de socialisation. Et donc, on a une pièce, peut-être, éventuellement, dédiée à ça, etc., pour que les potes viennent, etc. Donc, ils ne sont pas dans l'associatif. Et on retrouve plutôt des rétro-néo dans l'associatif. Est-ce que vous pensez qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a de ceux qui restent dans vos assos? Non. Voilà.
Il y a plein d'assauts possibles, il y a plein de personnes, de ceux qui restent, de ceux et celles qui restent, qui sont restés, qui font vivre des associations.
Moi, j'ai envie de rebondir sur... Alors, je connais pas très, très bien le territoire de la Creuse parce que je crois qu'il est aussi super divers. C'est-à-dire que c'est assez connu, le plateau des Mille Vaches, comme un territoire assez militant. Et je pense qu'il se passe pas du tout les mêmes choses et le travail, le tissu associatif n'a pas du tout le même visage selon l'endroit dans lequel on se situe dans le département. Moi, je suis dans le nord-ouest du département. Donc, c'est facile de prendre le train pour aller à Paris. Et on est sur plutôt... Alors, je resitue ma parole. Hein, je parle de ce que je perçois. Bien, je dois certainement avoir beaucoup d'angles morts par rapport à tout ça. Mais moi, je perçois autour de moi des agricultrices, des personnes qui travaillent dans le service à la personne. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Ludo, tout à l'heure, des personnes qui sont restées et qui ont leur propre réseau de socialisation qui se fait soit, j'ai l'impression, vu de l'extérieur, dans des cercles qui se passent chez des particuliers, ou bien sur des fêtes dédiées, ponctuelles, un peu plus ou moins traditionnelles ou avec des connotations un peu, voilà, je sais pas, je pense au loto, par exemple. On voit beaucoup d'affiches fleurir dans les périodes de loto, etc.
En ce moment, en venant ici, là, en voiture, il y avait la belote. Il y avait plein de panneaux de belote.
Donc, voilà, il y a des espaces de rassemblement dédiés, je pense, et qui sont, j'imagine, fréquentés par des personnes qui vivent ici depuis longtemps. J'avais envie de parler spécifiquement du café associatif dans lequel je me suis investie dès que je suis arrivée sur le territoire, tout de suite, parce qu'en fait, il était aussi géographiquement... je pouvais y aller en vélo en 10 minutes. Aujourd'hui, en fait, on a un souci avec ce café, c'est que la mairie a pas souhaité renouveler le bail. Et en fait, nous, on est perçus comme des néo-ruraux. Et je pense qu'on répond à une demande qui concerne quasiment uniquement ce qu'on a décrit depuis tout à l'heure, comme des personnes qui reviennent sur le territoire, puisque c'est notre clientèle et nos adhérents. En fait, on était sur un modèle de bar associatif avec une licence 4, donc qui fait aussi café. Donc, c'est pas que des adhérents qui vont venir consommer, ça peut être aussi des personnes du voisinage. Donc en fait, on a des locaux, on va dire, de longue date qui sont venus consommer, principalement de l'alcool, qui sont venus participer à des soirées, etc. On a tenté ce mélange-là, et globalement, on a été assez mal perçus, notamment par la mairie. Et moi, je trouve que, de mon point de vue, c'est très douloureux à vivre, parce qu'il y a une fracture et qu'il y a une difficulté de dialogue dans les circonstances qu'on a vécues. Donc voilà, je pense qu'on peut tout à fait assumer le fait de proposer des choses pour des gens qui arrivent sur le territoire ou qui y reviennent. Après, de pas être compris par les personnes qui vivent là depuis longtemps, pour ma part, c'est douloureux à vivre.
Merci beaucoup. Et là, ce que vous dites, bah, bien sûr, ça pose la question de la mixité sociale, enfin, ou d'arriver à faire cette mixité sociale, alors même que il y a une proximité géographique, mais qui du coup n'est pas une proximité sociale. Enfin, c'est ce que j'entends dans ce que vous dites, et ça me fait penser. Je rebondis sur les belotes parce que j'ai passé un peu de temps en Ardèche ces derniers temps, et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que justement ceux qui restent, comme tu l'as dit, Ludo, en fait, les belotes, c'est le principal moyen de récupérer de la thune quand même, et du coup de faire financer, et que c'est aussi un moyen de renouveler les pactes intervillage, parce que du coup, on va à la belote du village d'à côté et vice-versa. Et du coup, il y a une sorte de solidarité interstructure qui s'opère comme ça. Mais effectivement, là, en en parlant, en dehors d'un système institutionnel, enfin, c'est une forme de soutien. Donc, du coup, il y a quand même des assos de soutien interstructure, mais qui n'est pas formel au sens institutionnel. Je ne sais pas ce que vous le voyez sur votre territoire et comment vous le vivez.
Mais j'ai envie de rebondir pour les personnes, ceux et celles qui sont restés. Alors, je suis pas, moi, à cet endroit-là, mais par contre, quand j'étais jeune, mon père avait, donc je partage une expérience personnelle, quoi, une association et faisait partie de celui qui restait, enfin, des gens qui restaient, quoi. Et il mettait fort d'énergie avec d'autres à monter des événements pour qu'il y ait du vivre ensemble, de la solidarité, avec ces systèmes de sociabilisation traditionnels, comme le loto ou comme les spectacles, comme les concerts, etc. Et il y avait déjà des néo-ruraux qui venaient sur notre territoire, donc petit village de 1000 habitants, canton de 17 villages, vraiment tout petit dans le nord de la France, quoi. Et ces personnes-là, de notre côté, on les voyait mal, on avait un mauvais regard sur eux. Donc, je dis pas que je parle au nom de ceux qui restent, mais en tout cas, il y avait ce regard de et je parle pas de nous forcément ici parce que je suis passée de l'autre côté pour ainsi dire, mais il y avait ce truc de on sait très bien faire vivre notre territoire et les propositions n'étaient pas les mêmes, c'était pas le même, en tout cas de cette expérience là, le même type d'art, c'était pas le même type de musique, c'était pas la même façon de mettre en communication par exemple, c'était pas, on n'avait pas les mêmes outils, je dirais. Et du coup je pense qu'à l'époque, je le nommais pas comme ça, j'étais beaucoup trop jeune, mais il y avait des rapports de classe, en tout cas ressentis. Et du coup, c'est vrai que déjà, à l'époque, donc il y a 30 ans, quoi, ouais, 20-30 ans, il y avait déjà ces problématiques de ceux qui reviennent, ceux qui arrivent et ceux qui restent. Et du coup, je pense que ça, c'est difficile à dépasser et que ça fait partie d'une géopolitique globale qui pourrait même nous dépasser. Par contre, à l'endroit de notre thématique, qui est celle des rapports de pouvoir au sein de nos associations, j'étais aussi, j'ai entendu en tout cas où j'ai été témoin, de ces personnes néo-rurales qui venaient dans les instances associatives. Et là, c'était aussi assez joli à voir des conflits qui pouvaient avoir lieu et en même temps qu'on pouvait comprendre des deux côtés. Ça, je ne sais pas sociologiquement comment l'analyser, mais en tout cas, cette difficulté de lien existe, j'ai l'impression, depuis déjà pas mal de temps, quoi.
J'ai l'impression que, enfin, je vais pas essayer de donner une explication sociologique à ce que tu viens de relever, mais en tout cas, ça me fait un peu penser à comment est-ce qu'on... Où est-ce qu'on va chercher la compétence? Comment est-ce qu'on se forme? Et du coup, ça, enfin, on parle du coup de questions de classe, et du coup, c'est comment est-ce qu'on... Oui, c'est ça, quel accès on a à la formation et quel accès on a finalement à une classe socio-économique supérieure. Et finalement, c'est toujours ça. En fait, en territoire rural, on a un accès aux formations qui est restreint parce que mobilité restreinte, parce que financement restreint. Et donc, ceux qui restent, c'est ceux à qui il reste peu, finalement. Et du coup, quand il nous reste peu et qu'on voit des personnes néo-rurales arriver de classes socio-économiques supérieures et donc avec des... Enfin, j'allais dire des compétences. C'est pas des compétences en plus, mais en tout cas, avec des compétences peut-être dignes de ce que nous demanderait l'État et les institutions, mais aussi dans cette logique élitiste. Du coup, on est face à des personnes qui ont acquis plus de capital social et social, économique et culturel.
Vas-y, Marine.
Pour rebondir sur ce que tu as dit, Elsa, il y a accès à des compétences et du capital socio-économique, mais je crois qu'il y a aussi une question de ce qu'on incarne quand on arrive de la ville. Et c'est Emma Conquet qui parle de urban gaze et qui dit, en fait, il existe un prisme urbain qui va être supérieur et dominant de la ville sur la campagne, qui va montrer la campagne soit comme misérabiliste, soit comme romantique, mais pas comme réel, quoi. Et du coup, ce prisme urbain-là, il vient chanter tout un tas de choses et silencier tout un tas de trajectoires de vie en ruralité. Et donc, quand on arrive de la ville, on incarne ce regard silencieux. Et donc, finalement, de quoi qu'on soit nourri, je sais pas si on peut le dire comme ça, et qu'on soit né finalement à la campagne, qu'on ait grandi à la campagne ou non, on arrive de la ville, donc on incarne une forme de silenciation, et donc le dialogue est rendu difficile par principe, je crois.
Pour aller dans le sens avec une anecdote, parce que tous ceux qui viennent de la ville ne sont pas forcément considérés effectivement comme ça, ça dépend des valeurs qu'on apporte. J'étais dans un petit village en Picardie, et il y a un notable qui est venu s'installer... qui est venu s'installer dans le village, qui a acheté une des grandes propriétés, et qui, au bout de quelques mois, a été sollicité pour être maire. Alors qu'il venait de débarquer, que ça, c'était clairement un néo par rapport à tout ça, mais il incarnait, lui, des valeurs très droitardes, et un discours sur la ruralité, à savoir la chasse à cour, mais du coup, qui résonnait, et qui s'inscrivait dans un tas de valeurs versus... les wokistes, que sais-je. Et donc, ce néo-rural-là, lui, était tout à fait accepté et même a tout de suite été mis... était bien utile, parce qu'il maîtrisait justement un tas de codes, par ailleurs, de lois. Il avait son bagage économique, social, culturel. Et pour le coup, c'était quelque chose dont le village avait besoin et qui n'était pas menaçant et qui n'avait pas le même regard que celui des néo-ruraux, de la plupart des néo-ruraux qu'on pourrait avoir.
Vas-y, Marlène.
Moi, c'était un peu pour revenir aussi sur voilà, ce qu'on porte et de quoi on est aussi pétri. Et bah, je pensais un peu à deux exemples qui ont surgi et qui se répondent un peu. Bah, déjà, le tissu associatif, nous ne représentons pas le tissu associatif. Et il y a vraiment beaucoup d'associations, et notamment en Creuse. Et donc, ouais, il y a des associations très multiples. Donc déjà, je pense que c'est super important entre nous de se le redire. Comme ça aussi, on évite un peu toute la dichotomie de qui les crée. Et après, à l'intérieur des associations, et peut-être que c'est un peu les mêmes, et là, je m'en veux de ne pas m'être anonymisée, il y a aussi l'idée de comment le tissu associatif se regarde. Et pour être un peu dedans ces dernières années, avec, avec le fait de revenir, je trouve qu'il y a une humilité quand même aussi à avoir sur qu'est-ce qui fait, quand on parle de faire, territoire, on a l'impression que c'est vraiment les associations qui le représentent, qui le font vivre. Et je dis ça... pas du tout en voulant cracher dans la soupe, parce que c'est quelque chose qui me fait du bien et je suis très contente d'être dans tous ces liens et de participer à des initiatives qui sont trop chouettes. Après, on se calme. Je trouve qu'il y a quand même la manière dont aussi l'associatif se regarde. En tout cas, peut-être pour ces associations qu'oublient que le tissu associatif est beaucoup plus vaste. L'idée que ben, tout fait territoire, quoi, des paysannes, des écoles, voilà, et que on n'est pas que l'élan vital d'ici. Et souvent, moi, c'est un truc aussi qui peut un peu me gêner. On a l'impression qu'on fait le territoire, quoi. Et je trouve que c'est un peu raide. Pour avec qui on vit et avec qui on partage des choses.
Et je trouve que là, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est aussi, enfin, tu dis le secteur associatif, comment il se regarde, mais c'est aussi qui rend visible ça. Enfin, tu vois, en gros, c'est qui donne de la valeur à aux associations structurées. Parce que précisément, quand on parle des belotes, en fait, elles sont bizarrement beaucoup moins visibles. Et je pense que sur les territoires, tu as des associations qui sont plus visibles et d'autres moins visibles. Et j'ai l'impression que c'est aussi ça que tu pointes, c'est qu'est-ce qui est valorisé et là par qui. Et du coup, peut-être aussi par les institutions. Il me semble que c'est ce que tu pointais dans l'atelier, Ludo, sur qu'est-ce que les institutions font aux assos. Je ne sais pas si tu veux en dire deux mots. Ou Marine.
Non, je voulais juste dire aussi de comment on a accès aux outils de la communication et de la médiatisation. Enfin, je vois par exemple là où on est à la création d'un collectif et à la vie d'un autre. Toi, Marie, tu as des compétences en communication et en médias. Et du coup, c'est beaucoup plus visible tout de suite parce que y a un savoir à cet endroit-là. Qui s'acquiert où, qui s'acquiert en ville, mobilité, accès. Et du coup, il y a encore pour moi quelque chose qui fait que, dans les belotes où on voit les grands cartons sur les bords de route en papier fluo, ça marche très bien au niveau local, mais c'est pas médiatisé. Et comme on est dans une société urban gaze, ça remonte pas plus loin.
Il y a aussi, enfin moi ça me fait penser aussi à ce qui est socialement valorisé et à la question de la norme, et du coup ça me fait un pont entre comment sont structurées nos organisations, et ça me fait penser aussi à ça, la question de la compétence et du savoir, où il s'acquiert, mais comment il est valorisé aussi à l'endroit des ruralités. Et je fais aussi le lien avec ce que tu disais, Marlène, c'est qu'il y a des associations qu'on voit parce que c'est aussi bien vu d'en parler et de les voir, et que à force de ces évaluations d'impact, on a des chiffres à donner ou alors des résultats concrets, mais finalement, c'est peut-être pas celle où le... Enfin, sans jugement de valeur, mais l'impact n'est pas le même, ou alors il peut y avoir plus d'impact à des endroits qu'on ne voit pas. Et ça me fait penser irrémédiablement à la structuration de nos assos, où on retrouve aussi la hiérarchie, on retrouve des modèles qu'on copie sans bien même se poser la question, ou qu'on repolitise pas, politiser dans le bon sens du terme, quoi. Et les rapports de pouvoir se retrouvent également là, c'est-à-dire entre les assos qu'on aime montrer, entre les assos où c'est OK de les médiatiser, ou avec le message qui va bien, le mot qui va bien, et on se retrouve même parfois bénévole à ce les mots qui vont bien à dire, quoi. Impact, évaluation, ah oui, on s'est vachement regardé pour faire le travail. Enfin, alors que est-ce que c'est là le cœur de ce qu'on a envie de faire, quoi?
Je rebondis aussi ce que tu disais, Marine, et ce que vous êtes en train de dire là sur les compétences. Ça me fait penser, en Ardèche, du coup, j'ai assisté à une réunion pour le FDVA, donc, que vous devez bien connaître, le Fonds pour le développement de la vie associative. Et c'était hyper intéressant, justement, de voir qui avait les codes dans la salle. Parce que pour le coup, la salle était pleine, hein, donc tout le monde était là. Et là, pour le coup, tu avais les clubs des anciens, les comités des laïcs, tout le monde était là. Et ce qui était intéressant, donc il y a la personne qui présente donc ce qui est finançable, pas finançable. Et donc à un moment, il y a un club des anciens qui dit « Ah, mais du coup, moi, je fais un repas avec le village d'à côté. Est-ce que c'est finançable ?» Et là, réponse tout de suite « Ah bah non, mais là, c'est pas finançable puisque c'est une action ponctuelle. » Et c'est intéressant parce que là, du coup, après, en fait, en débriefant, on dit « Ah, mais si, en fait, c'est finançable. Le seul truc, c'est comment tu vas le présenter. » Donc en fait, ton action, si tu montres que ça mobilise... la vie locale et qu'en fait tu vas avoir plein de bénévoles du village d'à côté et nanana, bah en fait là c'est finançable. Et donc là j'ai l'impression qu'on touche le cœur de cette question de compétences, c'est que du coup tu vas avoir des personnes qui vont de fait être exclues de là en l'occurrence c'est de financement, mais plus globalement de la reconnaissance associative, parce qu'on va dire bah non, toi c'est ponctuel, c'est de l'événementiel, tu rentres pas dans le développement de la vie associative et de ce qui fait collectif dans la vie du village.
C'est peut-être là où c'est intéressant. Je n'ai pas trop de regard pour autant sur d'autres secteurs ou sur d'autres territoires, mais ici, en tout cas, en Creuse, il y a un travail de fond et assez intelligent de lien et de présence, alors que par les personnes en fait, qui sont en charge de mettre en place, enfin, d'accompagner la vie associative ou de mettre en place ces financements-là, justement à ces endroits d'accompagnement de ces personnes. Et du coup, je trouve qu'il reste encore des interstices. Alors, est-ce que c'est la ruralité ? J'ai quand même l'impression. C'est pas forcément du lien interpersonnel, mais c'est du lien de... peut-être une façon de vivre son métier individuel, mais en tout cas, il y a un lien de territoire qui me semble évident.
Et du coup, ce lien-là, il est possible par la proximité et par le fait que... Enfin, pour rebondir sur ce que tu disais, Yael, un dossier qui sur un territoire où il y a plus d'acteurs qui vont postuler sur les mêmes financements n'aurait juste pas été reçu. Là, il y a quand même un dialogue qui est rendu possible et du coup une certaine possible amélioration et du coup finalement cet acteur-là peut peut-être avoir accès à ce financement-là.
Et dans les échanges de l'atelier, moi, vous avez parlé de la dynamique guide asso sur le territoire.
Je pense que Marie, tu référais notamment à ça dans le lien de proximité. Effectivement, du coup, les conseillers d'éducation populaire, on va le dire encore, avec tout le réseau, du coup, a mis en place tout un programme de formation en direction des bénévoles. Et voilà, ce qui permet, alors effectivement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, pour cet exemple que tu donnes, effectivement, il y a la possibilité de se rencontrer, d'échanger, de se dire, ah, mais qu'est-ce qui est important et qui on finance et comment on reconnaît aussi les bénévoles et on met un peu la professionnalisation aussi de côté pour donner des clés aux personnes qui font vivre leurs assos.
Et avec des logiques de ce que vous disiez, d'aller vers. Donc, pas juste de tu laisses les assos venir vers toi, mais d'aller gratter, justement, c'est des assos qui peuvent être un peu moins visibles, si j'ai bien compris. Enfin, visibles pour les institutions.
Il se passe quelque chose quand même d'assez intéressant en Creuse, où avant, chaque association pouvait présenter un dossier pour son association en FDVA 1, pour les bénévoles, de formation des bénévoles. Et l'idée a été, vu que l'enveloppe budgétaire se réduit à peau de chagrin, a été de dire on va plutôt regarder les besoins communs des bénévoles dans le monde associatif, plutôt que chaque asso dépose, et a proposé de créer un programme commun en direction des bénévoles, ce qui permet en fait, il y a vraiment toutes sortes de formations, c'est assez varié, ça va de l'administratif à VHSS, violence, pardon, lutte contre les violences sexistes et sexuelles, des podcasts, enfin, atelier podcast avec la radio locale. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de proposer un programme de formation aux bénévoles et aussi, ben, surtout, de reconnaître que c'est trop chouette d'aller se former ensemble, quoi.
Avec Elsa, on s'est justement questionné sur la question de la formation, parce que toutes les personnes ne se sentent pas OK d'aller en formation, ne veulent pas forcément se former, et du coup, nous, on arrive avec des sujets où, pour certaines personnes, c'est vraiment très, très lointain et pas du tout raccord avec leurs nécessités présentes. Ces nécessités aussi, parfois, sont guidées par les financements, par avoir des sous, pour survivre, etc. On a quand même conscience que si on parle de gestion de conflits un petit peu, de plus en plus en tout cas, mais avec parcimonie, on ne va pas jusqu'à aller voir les enjeux de pouvoir et les oppressions au sein des gouvernances. Et que, on le sait maintenant, il y a une souffrance dans le milieu associatif et il y a le contrat républicain qui oblige quand même à des contraintes considérables. Il y a de la souffrance au travail, il y a la question du burn-out. Enfin, on parle de plein de sujets qui sont assez difficiles et on ne va pas voir comment, on va pas jusqu'au bout, disons, de comment sont pensées la structuration et comment sont pensés les rapports de pouvoir dans les gouvernances. Et c'est justement ce qu'on voulait aborder avec Elsa, et on a conscience que, de la même façon, c'est pas quelque chose qui est forcément valorisé ou c'est des sujets qui peuvent fragiliser ou vulnérabiliser les associations. Et donc, il y a vraiment un endroit qui, pour nous, est nécessaire d'aller voir, mais pour autant, peuvent heurter, quoi.
Moi, je veux pas casser l'ambiance, hein, parce que, par ailleurs, j'ai plein d'espoir et plein d'envie, mais une des raisons qui a fait que je n'ai pas eu envie de monter une structure associative... justement, en dépit du fait d'avoir plein d'idées et plein d'envies avec des très chouettes personnes, c'est parce que la structure associative, elle est hiérarchisée et que je pense que nous avons une socialisation au groupe, une façon de faire groupe qui est biaisée en soi, puisque notre socialisation, elle vient de la famille et que la famille, elle est par essence... enfin la famille occidentale, traditionnelle, nucléaire, elle est adultiste avec un rapport dominant-dominé, et l'adultisme étant la seule domination qui concerne tout le monde, c'est-à-dire on a été des enfants, donc dominés par des adultes, donc socialisés en tant que personne inférieure, et donc après, en devenant adulte, se rejouent ces dynamiques, soit d'être à une place, soit d'être à une autre, mais d'être en tous les cas en adversité. Alors après, il y a plein d'autres oppressions systémiques qui s'ajoutent, mais du coup, moi, ce qui m'ennuie dans la structure associative, c'est qu'on reproduit ce schéma familial-là. Et on sait aujourd'hui que la famille est le théâtre de violence et de silenciation, notamment autour de l'inceste qui concerne une personne sur 10. Quelle famille compte moins de 10 personnes ? Donc voilà, moi, c'est des questions ouvertes. Et c'est pour ça que là, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais que d'instinct, le collectif... m'appelle plus.
Du coup, Marine, mais ça marche aussi pour toutes les autres personnes autour de la table. Dans les collectifs, qu'est-ce que vous mettez en place aussi pour prévenir ? Parce que, j'allais dire, moi, j'ai d'autres expériences précisément de collectifs où il n'y a pas de structure et où on dit c'est organique. Et souvent, quand c'est organique, c'est un peu l'enfer parce que tu laisses faire et du coup, qui se retrouve à faire les choses. Et là, je donne juste peut-être un exemple, parce que c'était assez parlant. J'avais discuté avec un gars qui avait créé une épicerie autogérée, mais ce n'est pas Ludo. il y en a d'autres. Et quand tu lui avais justement posé la question de « Ah, mais du coup, qui fait le ménage ?» Il était là, genre « Ah, personne décide, mais il y a toujours quelqu'un qui, à un moment, commence à s'y faire. » Et en fait, il ne savait même pas qui c'était. Donc... voilà. Je le pose là. Ça veut pas dire que le modèle associatif est mieux, mais du coup, est-ce que vous avez des billes pour penser à ça?
Au sein de l'association dont je parlais tout à l'heure, le café associatif, on a essayé de mettre en place à plusieurs reprises sur plusieurs années des chartes et des règlements. Et, je pense que ça reste un échec. Après, il y a quelque chose qui se met en marche quand on commence à rédiger ses chartes et ses règlements, donc ça, c'est important. Pour le cas de cette structure-là, ça n'a pas abouti. Et on n'a pas tous et toutes, je crois, la même culture de l'engagement, et ça, c'est déjà difficile d'avoir une culture commune, en fait. Alors, peut-être que je fais une digression, vous me coupez si ça part trop loin, mais c'est parce que j'arrive pas à fonctionner autrement que par des évocations dans ma tête. En fait, je me demandais ce qui pouvait, ce que j'attendrais moi d'une association idéale. En fait, déjà, je crois que pour ma part, il y aura jamais de zone de confort. En fait, par contre, il y a des endroits où j'ai envie de trouver un certain nombre de facteurs de sécurisants. Je peux nuancer mon propos en disant qu'aujourd'hui, dans mes engagements associatifs, je mets souvent de l'eau dans mon vin, en fait. Je suis obligée de naviguer sans arrêt, de négocier entre un profond besoin d'intégrité et faire avec les personnes qui sont là, les situations qui sont là. Donc ça, c'est toujours une navigation. Moi, j'ai vraiment pensé à cette image de la feuille de papier à cigarette qui est très fine, sur laquelle en tant qu'individu, hein, j'arrive pas trop à penser plus systémique, mais j'ai l'impression que c'est quand même un démarrage de réflexion, en tout cas, sur le fait que, bien sûr, que je suis vraiment partisane du fait qu'il faut réfléchir collectivement, faire évoluer nos manières de vivre et de relationner, et les associations en sont un moyen. Ça, bien sûr, et en même temps, faut aussi louvoyer avec ce truc que c'est de cette instabilité que naissent aussi la créativité et cet inconfort qu'on ressent. Alors, je dis pas que les oppressions, c'est ça qui est notre petit moteur. Non, merci, hein, c'est pas ça que je dis. Il n'empêche que ça m'interroge aussi. Et juste, j'avais envie de citer ça parce qu'en venant, j'écoutais un podcast qui s'appelle « Faire » et où on entend Marion Pilias qui parle de la création de la déferlante. Et c'est un très beau récit de création collective. Et elle dit qu'il y avait de la fluidité. Et alors, ce mot-là, il m'a vraiment fait du bien. C'était un petit pansement. Et j'ai réfléchi de mon côté à qu'est-ce que ça voulait dire, la fluidité. Je me suis dit « ça veut dire soin plus motivation ». J'ai fait cette petite équation en me disant, en fait, quand on a de la motivation ou du sens commun collectif, ce qu'on a souvent dans une association, pour moi, ce qui manquerait aujourd'hui, le petit Lego qui manque, c'est le soin. Et après, c'est tout un dialogue sur comment on fait. Enfin, là, avec nous toutes, Creuse, le collectif enfantif, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui se mettent au travail. Et moi, la réponse aujourd'hui que j'ai envie d'apporter, c'est moi, j'ai envie de créer mes associations et mes projets féministes parce qu'en fait, j'ai pas envie d'aller, par exemple, je ne vais jamais dans les collectifs militants du côté écologique parce que je sais qu'ils sont globalement pris par les hommes et que j'ai pas envie de me battre. Moi, j'ai envie de faire les trucs qui m'intéressent et juste pas seulement de répondre aux propositions des autres, mais mettre en place les idées et les pensées qui, moi, m'animent, en fait.
Une petite question, du coup, est-ce que intuitivement, on se dit qu'en ville, c'est peut-être plus facile. Alors, d'autant plus qu'on est dans des grandes villes, on va trouver plus facilement un collectif qui va aborder les choses selon un angle qui peut nous intéresser. Enfin, ça dépend. Moi, je suis dans une ville de 15 000 habitants. Enfin, c'est peut-être encore trop petit, mais voilà. Est-ce que là, il y a ce truc-là, est-ce que c'est accentué quand on est dans un territoire rural de « si je veux être à 10 minutes, 30 minutes de chez moi », il faut composer avec ce qui se passe, et à savoir, il y a moins de chances, il y a moins un marché, je sais pas quoi, de l'association.
En fait, je trouve que c'est difficile d'aborder la question de comment réduire les oppressions systémiques dans son association, dans sa structure, parce que systémiquement et structurellement, la société est constituée sur des rapports de pouvoir, des rapports sociaux inégaux, et du coup des rapports de domination. Donc on a les rapports de genre, on a les inégalités de classe, et immanquablement, les associations, les organisations sont la société, quoi. Et je dirais que, au travers de ce à quoi on réfléchit en Creuse, ou en tout cas dans nos endroits avec Elsa, ou ce qu'on est en train de tester sur nous toutes Creuses, c'est de pouvoir regarder avec honnêteté comment est constituée la structure, comment et de quoi sont constitués les gens, en fait. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Et c'est d'être assez honnête, de partir du principe qu'il y aura des rapports de pouvoir. Et qu'il va y avoir des rapports de domination et qu'il va immanquablement falloir les regarder. Pour ça, il y a des outils. Pour ça, il y a des temps de discussion sur la gouvernance. Et par exemple, sur Nous Toutes Creuses, c'est un exemple, mais il y a le fait qu'on se souhaite, hein, c'est des souhaits, donc ça ne veut pas dire qu'on y arrive, parce que c'est une remise en question permanente, et nous-mêmes, on n'est pas à l'abri, en fait, de reproduire des choses, mais il y a le fait qu'il ne doit pas y avoir de leader. Et du coup, ça rejoint, je ne dis pas que les associations structurées ne sont pas bonnes ou n'est pas un mauvais modèle, mais le fait que déjà, il y a un regard ou une conscientisation sur le fait que la place de leader peut poser problème, c'est déjà, je trouve, un grand pas, surtout quand ces leaders s'avèrent être en majorité des hommes cis, blancs, effectivement, pour la plupart valides et avec des bagages socio-culturels. Et du coup, si on n'est pas en capacité de se dire, de fait, il y a un biais dans le rapport à la décision, dans le rapport à la représentation publique, on se trompe, je pense qu'on se trompe. On a monté un projet l'année dernière, il y a 2 ans en CRUS, qui s'appelait Brûler les planches, et gros big up aux collègues avec qui on a monté ça, parce qu'il s'avérait qu'on était les petites mains des lieux qui accueillent le public en CRUS, et que ceux, je dis bien ceux qui prenaient la parole, étaient toujours des hommes cis. Il s'avérait que quand on avait la possibilité, nous les femmes, de prendre la parole, on ne se sentait pas capable. Et du coup, on a été en capacité de regarder ce mécanisme-là pour se dire comment faire pour dépasser ça. Il s'avère que les places de pouvoir sont prises par les hommes cis blancs. Ça ne veut pas dire que tous les hommes cis blancs reproduisent ça, mais c'est qu'il y a un système et une structure. Que pour ça, il y a des outils et qu'il faut se former. Là, je suis, moi, à mon endroit, je parle en jeu, mais pour moi, c'est évident qu'il faut se former à ce que ça veut dire le conflit, ce que ça veut dire les rapports de pouvoir. Et si on n'est pas en capacité d'aller regarder, de se déplacer à ces endroits-là, pour moi, ça ne marchera pas. Et c'est des sujets auxquels on réfléchit avec Elsa, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses autour de la gestion du conflit, il y a des choses autour du bien-être au travail, et c'est super, et faisons-le, mais si on n'a pas... on appelle ça le sociogramme aussi. Si on n'a pas les lunettes en fait, de dire ok, comment notre organisation est pensée par qui et comment sont prises les décisions, immanquablement les rapports de pouvoir vont s'avérer et le conflit va devenir violence.
Ouais, je voulais juste rebondir sur un truc que j'ai entendu que tu disais, enfin le truc de besoin de leader et tout ça, enfin ou pas de besoin de leader en tout cas, en quoi c'est problématique alors que des groupes et qui donc il faut outiller pour tout ça. À l'inverse, malheureusement, je ne sais pas si vous avez entendu parler des personnes sources de ce concept-là, là, moi dans des milieux où je suis. Il y a ce truc-là qui vient à la mode, là, et qui est, bah, en fait, une sorte de recréer des leaders, en gros, avec un nouveau mot, et qui sont des personnes sources parce qu'ils ont des compétences, des connaissances, et je sais pas quoi. On va pouvoir se tourner vers ces personnes-là. Et c'est un truc qui prend de ouf, et qui, du coup, va pas forcément dans le sens, malheureusement, de qu'on aimerait, mais qui a la hype.
J'ajoutais juste un petit complément parce que là, ce que vous dites, ça me fait penser à un petit concept que j'ai découvert l'année dernière sur la disponibilité biographique et qui, du coup, éclaire aussi beaucoup. Parce qu'effectivement, là, quand tu posais, dans les CA, par exemple, il y a quand même majoritairement des mecs, bah, c'est aussi parce que dans la société et dans leur famille, bah, en fait, ils ont plus de temps. Et donc, c'est assez simple, disponibilité biographique. C'est bizarrement, quand vous êtes une meuf et que vous mettez en couple, vous perdez de la disponibilité biographique. Quand il y a des gamins, vous la perdez encore plus. Et il y a une étude comme ça, par exemple, qui est sortie sur les agricultrices, qui dit, en fait, la question, c'est simple, c'est pourquoi dans les instances, du coup, là, qui, autour des agriculteurs et de l'agriculture, je me dis l'agriculture, ça ne marche pas, l'agriculture, il n'y a pas de femmes. Et en fait, ce qu'ils montraient, c'est que, bah, en fait, les femmes agricultrices, il y avait la double peine de, déjà, tu taffes beaucoup, et en fait, elles avaient en plus la charge à la maison. Enfin, c'est le fameux triple temps, voire quadruple temps en fonction. Enfin, voilà. Du coup, je le rajoute juste dans la boucle. Mais Marine, tu voulais...
Oui, sur ce concept de personne source... où on va pouvoir solliciter la personne sur ses compétences. Moi, ce qui me gêne un peu là-dedans, c'est qu'on ne va pas visibiliser toutes les compétences et toutes les mêmes, parce que finalement, une personne est toujours experte de sa propre trajectoire et donc sur certains segments de sa vie, sauf qu'on ne va pas forcément le visibiliser. Donc, on va dire une telle est compétente là-dessus, alors qu'une autre le sera sur tout un tas de choses, mais ça, ça ne rentre pas dans les critères de compétences.
Oui, c'est clairement un truc qui vient masquer des rapports de domination et des rapports de qu'est-ce qu'on met en avant dans la société, clairement.
Est-ce que l'une d'entre vous veut dire un petit mot de la fin ou s'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui vous semble hyper important?
Moi, je trouve que l'association, le collectif vont renvoyer des images différentes et l'association, c'est déjà une cellule entière, c'est déjà une maison fermée. Et donc, soit on rentre, soit on reste à l'extérieur. Mais en tout cas, il y a ce truc intérieur-extérieur qui peut faire un peu peur selon, justement, comment on est situé, avec, enfin voilà, quel niveau de privilège, d'autorisation, de droit de cité. Et donc, il y a un peu cette question du pas de porte franchi ou non, alors que le collectif qui se veut plus organique, en tout cas sans lieu fixe, sans structure mère, donc pour le meilleur et pour le pire, parce que du coup il y a pas de vase clos, donc il y a moins cet effet huis clos, justement, où on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur et donc silencieux et potentiellement violent, mais il y a pas non plus d'abri ou de lieu refuge, et donc dans les deux cas, ça questionne, je trouve.
Marlène ?
Moi, je voulais ajouter quelque chose sur les dynamiques en milieu rural et notamment sur la question de l'informel. Je crois que ça, enfin, on en a beaucoup discuté depuis le début de l'atelier. En fait, cette question de l'informel en ruralité, elle a des super côtés et des côtés qui sont un peu plus négatifs. Et dans les, je vais commencer par le négatif pour sublimer tout ça. Les côtés qui, enfin, moi j'ai pu noter de difficiles et qu'on a déjà énoncé, c'est notamment le fait que c'est souvent les mêmes personnes et les mêmes acteurs au masculin qui sont à la tête des structures et aussi des organismes de financement et qui font que du coup on se retrouve facilement face à soit un élu associatif ou un élu territorial et que du coup une opinion qui est faite sur une association et sur son travail souvent elle a du mal à enfin elle reste sclérosée et elle a du mal à changer et par contre, ce que ça peut avoir aussi de positif, c'est que il y a quelque chose aussi qui est difficile à percevoir dans les dynamiques associatives, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans cet espace d'informel, c'est-à-dire que les décisions vont pas forcément être prises à l'instant et à l'endroit où on les imagine, c'est-à-dire dans une instance, un CA, un bureau ou une réunion, mais vont être prises plutôt sur un temps d'apéro, d'un appel, et sur des endroits de proximité qu'on n'aurait pas forcément soupçonné. Et en fait, cette proximité-là, je trouve qu'elle a aussi quelque chose de très beau et de très, elle ajoute de la réalité au travail de terrain, c'est-à-dire que les personnes qui ont les pouvoirs de décision, ou en tout cas, à l'échelle du territoire, pas forcément à l'échelle associative, mais à l'échelle de l'État, ont beaucoup plus de vision du réel besoin et de la vraie, enfin, de la réalité du terrain. Et ça amène aussi, cette proximité amène aussi que, les projets peuvent aller très vite, en fait. Il y a des liens, il y a des connexions qui se font rapidement. Le partenariat, souvent, le maillage territorial sur nos territoires, il est quand même incroyable. Enfin, il y a les assos, c'est sûr, elles se regardent et parfois, il y a du conflit, etc. Mais en fait, elles sont obligées de coopérer. Donc, en fait, de fait, elles coopèrent et il y a une espèce d'émulation aussi qui sort de ça et de cette proximité. Et je pense que c'est assez important de le souligner. Et on peut peut-être faire une transition avec la porte.
Je voulais juste donner ce petit rebondissement parce que ça va être les élections municipales. J'ai entendu autour de moi qu'il y avait beaucoup de municipalités qui cherchaient des femmes pour la parité dans leur liste et que les femmes n'osaient pas parler, en fait, que celles qui finissent par consentir à s'inscrire sur les listes n'osent pas prendre la parole. Et donc, je fais la transition comme ça sur, en tout cas, de mon côté, ressenti comme vraiment un besoin de changement culturel. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur vraiment des changements de paradigme et que ça avance à différentes vitesses. En tout cas, moi, je le ressens sur le milieu associatif. Et donc, l'exemple de la fête de la soupe, c'est donc organisé par l'association dont je parle depuis le début du podcast, qui est le Café Associatif, qui du coup change de village pour cette année, pour l'édition, la deuxième édition cette année, où on est très bien accueilli par une autre mairie, mais avant notre arrivée sur les lieux, on est précédé par notre réputation, puisque en fait ça a fait le tour du canton, que ça s'est pas bien passé dans l'autre commune, et puis finalement on arrive à créer un lien parce qu'on se rencontre physiquement. D'ailleurs, je pense que, pardon, je fais une mini parenthèse, mais la question de la communication et de ce que le Covid aussi a fait à nos socialisations, c'est un vrai enjeu aussi, je pense, sur nos territoires aussi, sur la communication virtuelle, etc. Mais donc là, en fait, on est sur des rencontres de personne à personne, donc ça permet de désamorcer des choses. Et donc, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je me suis retrouvée dans un inconfort parce que, d'un côté, je portais en tant qu'organisatrice la fête de la soupe, et d'un autre côté, dans mes espaces militants, associatifs, donc asso LGBT, asso féministe, etc., j'arrivais pas à faire la promotion de l'événement parce que, en fait, quelque part, je me suis investie, mais ça, c'est la réflexion après, hein, qui c'est après avoir analysé mon inconfort, j'ai compris qu'en fait, je me sentais un peu comme responsable ou investie d'une mission qui était de garantir l'accueil de ces personnes, un accueil safe qui est devenu, en fait, vraiment, qui fait partie maintenant de la culture, on va dire, de toutes ces assos militantes pour ou enfin voilà dans lesquelles on essaie de désamorcer les oppressions. Et donc je le disais en rigolant tout à l'heure, ma petite victoire perso, ça a été de réussir à convaincre, à expliquer, à faire aussi un peu de pédagogie, mais je le dis sans condescendance, c'est-à-dire aussi moi juste simplement être capable d'expliquer pourquoi je voulais qu'on dégenre les toilettes et pourquoi c'était un acte important et symboliquement fort, et pas juste condamner un toilette, mais en fait faire en sorte qu'on n'ait pas à se poser la question de quelle porte on va prendre. C'était un geste significatif. Et donc ça a été ma partie sur cette année. Aujourd'hui, dans les membres actifs, organisateurices de la fête de la soupe, je suis la seule personne à porter ces idées, à essayer de les traduire en actes. Ça ne veut pas dire que les autres ne partagent pas les idées, mais en fait, il y a vraiment aussi, pour le coup, une différence culturelle, en fait. C'est-à-dire que moi, ça fait quelques années maintenant que je suis acculturée à ça et que j'arrive avec un autre des interlocuteuristes qui sont intéressés, curieux, curieuses, mais pour qui c'est même pas forcément la priorité de mettre ça en acte. Et donc, c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je parlais de mettre de l'eau dans mon vin, de comment j'arrive à négocier. Et pour moi, ça retombe sur aussi les propos de, je pense, à Virginie Despentes. En fait, à un moment donné, il y a des jours où on est en forme pour faire de la pédagogie, il y a des jours où on est en forme pour répondre à une agression, il y a des jours où on n'y arrive pas. Et en fait, essayer d'être aussi OK avec ça. Enfin, c'est pour ça que je parlais de tout à l'heure aussi d'être dans une perpétuelle négociation, re-questionnement. C'est comme ça que moi, en tout cas, je tire mon épingle du jeu.
Merci beaucoup. Est-ce que tu veux un dernier mot de la fin, Marie?
Ça me fait penser au fait qu'on est quand même nombreux et nombreuses dans le milieu associatif, ou en tout cas dans le milieu de l'engagement, qu'importe l'asso ou la structure ou quoi, et qu'on fait face à un certain nombre d'enjeux sociaux et sociétals, et que je nous trouve quand même sacrément courageux et courageuses de ne rien lâcher et de vouloir faire notre part, et qu'on n'est pas toujours aidés, et particulièrement pas en ce moment au regard du contexte politique, et que je nous souhaite quand même le meilleur malgré tout ça, quoi. Et de abolir les oppressions dans nos orgas.
Merci à toutes les cinq pour ces échanges, et puis à Marie et Elsa d'avoir organisé la soirée. Merci aux auditeurs et aux auditrices de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par mail à l'adresse hello@questions-asso.com que vous trouverez dans la description de cet épisode. Et pour rappel traditionnel, vous pouvez nous suivre sur vos plateformes de podcast préférées, comme nous l'avions dit, Spotify, Deezer, Apple Music, PeerTube. Et vous pouvez nous lâcher les petites 5 étoiles, ça fera plaisir. Vous pouvez également vous abonner à votre newsletter pour ne manquer aucun épisode. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf. Aujourd'hui, c'est Guillaume Desjardins de 50 TV qui était la réalisation. La jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut.
Question d'assaut.
Le podcast par et pour les assauts.